Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Ronéline Timonera Idi Amin.
Riposte contre Ebola, des essais cliniques sont en cours pour évaluer l'efficacité d'un candidat vaccin proposé par l'université d'Oxford contre la souche Bundibugyo du virus en RDC, de quoi réjouir l'OMS. Les conducteurs des vélos connus sous les sobriquets des Bayanda jubilent au Kasaï Central. Ils viennent d'apprendre la mesure prise par leur gouvernement provincial ordonnant la suppression de toutes les barrières illégales à l'origine de leur souffrance. Dans la rubrique invité, nous vous proposons des analyses sur la récente décision de la Cour constitutionnelle de la RDC concernant la recevabilité et la conformité à la Constitution de la loi fixant les modalités d'organisation du référendum au pays. Nous commençons par la santé. Les efforts se poursuivent pour trouver un vaccin contre l'actuelle souche du virus Ebola, connu sous le nom de Bundibugyo. Selon les informations à notre possession, des essais cliniques de phase 1 d'un vaccin expérimental sont en cours. Il s'agit d'un candidat vaccin proposé par la prestigieuse université britannique Oxford, mondialement reconnue pour son expertise dans ces domaines. Une étape saluée par l'Organisation mondiale de la santé. Détail avec vous, Richard Kamonga Junior.
L'OMS a salué le lancement des essais cliniques de phase 1 d'un vaccin expérimental contre la maladie à virus Ebola de souche Bundibugyo. Le candidat vaccin, baptisé Shadow X1-BD-BV, a été développé par le groupe vaccin d'Oxford et de l'Institut des sciences des pandémies de l'Université Oxford. Il repose sur la même technologie que le vaccin Oxford-AstraZeneca utilisé contre la COVID-19. Le premier volontaire a reçu une dose du vaccin le 24 juillet dernier. Cette première phase d'essai vise d'évaluer l'innocuité du produit ainsi que la réponse immunitaire qu'il génère chez les participants. Dans un message publié sur le réseau social X, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a qualifié cette étape d'importante pour le développement d'un outil de prévention contre Ebola Bundibugyo. Selon l'OMS, les données qui seront recueillies au cours des essais permettront d'orienter les prochaines étapes du développement du vaccin avant une éventuelle autorisation d'utilisation par les autorités sanitaires compétentes.
Et puis les activités humanitaires reprennent progressivement dans la zone de santé de Niakoundé après les incidents survenus à la suite de l'assassinat le 15 juillet 2026 d'un leader du Front patriotique intégrationniste de l'Ituri FPIC. Ce retour est salué par la coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri qui estime que la présence des humanitaires est indispensable pour renforcer la riposte contre la maladie à virus Ebola. Jean-Claude Lokidile.
Après plusieurs jours d'incertitude, les équipes humanitaires reviennent progressivement dans la zone de santé de Niakoundé. Pour la société civile de l'Ituri, cette reprise des activités est une étape importante pour assurer la continuité de la riposte contre Ebola dans une zone particulièrement touchée par l'épidémie. Dieudonné Le Saint.
Nous remercions tous ceux-là qui ont contribué à faire que la paix revienne dans la zone parce que notre ennemi commun demeure Ebola. Nous devons le combattre par tous les moyens.
Tout en saluant ce retour, la société civile de l'Ituri rappelle que l'épidémie continue de progresser. Elle appelle aussi bien les populations que les différents acteurs de la riposte à maintenir leurs efforts afin de limiter la propagation de la maladie.
Ebola est une maladie qui tue réellement. En Ituri, nous avons déjà plusieurs cas de décès, plusieurs malades qui sont sous surveillance à ce moment. Il n'y a pas besoin de continuer à perdre une journée dans cette lutte si réellement nous voulons arrêter la maladie.
Selon les dernières données du Centre des opérations d'urgence de santé publique, l'épidémie d'Ebola poursuit sa progression dans plusieurs zones de santé de l'Ituri. Les acteurs de la riposte insistent sur la nécessité de conjuguer les efforts des autorités, des partenaires et des communautés pour freiner sa propagation. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Nous sommes tous humains. C'est sous ce thème que se sont réunies des centaines de personnes majoritairement atteintes d'albinisme. Nous sommes à Matadi dans le Congo central. C'était au cours d'une séance de sensibilisation organisée mardi par l'association La Voix des Oubliés, une organisation qui milite pour le droit et la protection des personnes vulnérables. L'objectif visé est de combattre les complexes aînés du regard souvent stigmatisant de la société tout en encourageant encourageant l'acceptation de soi, l'inclusion et l'épanouissement personnel. Que pouvons-nous savoir à ce sujet, Élise Kavira?
Face aux préjugés et aux regards parfois blessants de la société, de nombreuses personnes atteintes d'albinisme choisissent encore de s'effacer. Une réalité sur laquelle revient Ferdinand Di Molo, lui-même atteint du déficit de la mélanine.
Souvent les albinos entre eux en cours de route ou bien dans certains endroits, ils s'évitent parce qu'ils se disent que si je suis déjà seul dans la rue en tant qu'albinos, j'attire l'attention. À combien plus forte raison lorsqu'on va nous voir à deux ou à plusieurs?
Selon les organisateurs, dans une société de plus en plus sensibilisée, les personnes atteintes d'albinisme doivent dépasser la crainte du regard des autres pour favoriser leur intégration. Témoignage d'Émilie Pambou, mère de famille et épouse d'un albinos.
En tout cas, les premiers jours, mon mari m'avait abordé. J'avais trouvé ça normal et je suis très à l'aise avec lui comme mari.
Dans cette même lancée, Honoré Loango, président international de l'association La Voix des Oubliés, revient sur le message essentiel de ce programme.
Nous sommes tous humains et en tant que tels, vous avez droit à la vie, à l'aide de l'avant, étudier, et grâce à ce que vous allez faire, c'est une façon aussi non seulement de contribuer pour votre épanouissement, mais pour le développement même du monde entier.
La Voix des Oubliés insiste sur le fait que l'albinisme ne réduit ni la valeur humaine, ni la capacité d'une personne à contribuer utilement à la société. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, fini les barrières illégales sur les routes du Kasaï central. Le gouvernement provincial en ordonne la suppression immédiate. L'objectif poursuivi étant de garantir la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de mettre un terme aux tracasseries dénoncées par les usagers. Une décision saluée par les transporteurs à vélo, les Bayanda. Les points avec André Katenegalamouloumé.
Dans un communiqué daté du 27 juillet et rendu public ce mercredi, le ministre provincial de l'Intérieur, Kamayi Meroé, ordonne la suppression immédiate de toutes les barrières illégales et des faux postes de perception. Les administrateurs des territoires et les chefs de secteur sont appelés à appliquer cette décision sans délai, une mesure prise sur instruction du gouverneur des provinces. Le ministre prévient que tout service qui installera une barrière ou percevra des taxes sans autorisation s'expose à des sanctions. L'objectif est clair, faciliter la circulation des personnes et de biens et réduire les tracasseries dans la province. Sur les terrains, les transporteurs à vélo affichent leur satisfaction. Ils expliquent qu'à chaque trajet, ils devaient s'arrêter à plusieurs barrières et payer à chaque passage. Louis Mboui, transporteur à vélo venu de Kabitanga, dans les territoires de Dibaya, s'est réjoui de cette décision.
Nous saluons cette décision parce qu'à chaque fois qu'on apportait nos produits, le collecteur des impôts nous arrêtait en cours de route. C'était pénible. Maintenant que l'on a décidé de les enlever, nous sommes contents.
Les transporteurs demandent maintenant aux autorités de veiller à l'application effective de cette mesure. Kananga, André Katende Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Merci André Katende Ngala Mouloumé. Nous allons nous rendre à présent en Ituri, parcourir les 55 kilomètres de la route Bounia-Kassegni et aujourd'hui une véritable preuve, bourbier, érosion et dégradation importante de la chaussée compliquent la circulation sur plusieurs tronçons. Cette situation survient quelques semaines après la suspension des travaux de réhabilitation engagés par le gouvernement provincial. Les usagers dénoncent cet état de délabrement et appellent les autorités à intervenir avant l'arrivée de la saison de pluie. Reportage de Martial Kizabia Mungu qui a effectué un aller-retour sur cette route pour vous.
La route Bounia-Kassegni figure parmi les axes routiers les plus fréquentés de la province de l'Ituri. Chaque jour, opérateurs économiques, transporteurs et voyageurs l'empruntent pour les échanges commerciaux avec l'Ouganda voisin, notamment à travers le lac Albert. Mais actuellement, cette voie stratégique se détériore davantage. Des transporteurs rencontrés sur place tirent la sonnette d'alarme.
Nous, les taximen de transit entre Bounia et Kassegni, nous souffrons beaucoup. La route se dégrade plus vers Boussaba. Arriver à Kassegni et Chomia, c'est tout un problème. La route s'est vraiment détériorée. Nous souffrons beaucoup.
Pourtant, il y a environ un mois, certains tronçons de cette route avaient bénéficié des travaux de réhabilitation partielle, notamment sur l'axe Mbogo-Nyakiro ainsi que dans la plaine située à l'entrée des Kassegni. Malgré ces interventions, les usagers estiment que les efforts réalisés restent insuffisants face à l'ampleur des dégradations. À l'Herculé, la réaction des autorités provinciales n'avait pas encore été obtenue. Bounia, Martial Kizabiamungu, des retours des Kassegni, Radio Okapi.
Bon retour à vous, Martial. La compagnie pétrolière Perenco sort de son silence après la publication lundi dernier d'un rapport accablant l'accusant d'actes de pollution environnementale dans certains villages proches de son site d'exploitation à Mwanda, au Congo central. Parmi les accusations, Human Rights Watch évoque la pollution de l'air, des sols et des sources d'eau à la suite d'une analyse d'images satellitaires et des clichés exclusifs provenant des sites d'exploitation pétrolière. Des accusations rejetées catégoriquement par Perenco. Le point avec Benjamin Mudumbi.
À la lecture du communiqué, Perenco Rep constate que ces accusations reposent sur, d'une part, des rapports factuellement et scientifiquement inexacts quand ils ne sont pas en plus obsolètes, en particulier un rapport du Sénat congolais datant de 2013 dont la méthodologie et les conclusions ont été systématiquement dénoncées, y compris localement, ainsi que d'autre part, quelques déclarations tronquées et invérifiables sélectionnées par Human Rights Watch, censément recueillies dans des circonstances inconnues auprès d'un nombre plus que limité de personnes sélectionnées pour alimenter son communiqué. Contrairement aux affirmations qui ont été avancées, notamment la pollution de l'air par le brûlage du gaz à 5 km voire 80 mètres des habitations, Perenco Rep tient à réaffirmer que les communautés locales et l'environnement demeurent au cœur de ses préoccupations depuis plus de 25 ans. Les autorités congolaises exercent d'ailleurs un contrôle continu, régulier et approfondi de ces opérations, veillant au respect de l'ensemble de ses obligations, y compris en matière environnementale, précise Perenco.
Évaluer le fonctionnement du guichet unique des créations d'entreprises GIS ainsi que les progrès réalisés dans le processus de formalisation des entreprises ici du secteur informel en RDC. Tel est l'objectif de la visite effectuée cette semaine par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, au siège de cette structure. Accompagné du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, il a rappelé que les GIS constitue une institution clé dans la politique gouvernementale d'amélioration du climat des affaires. Ce fut également l'occasion pour la directrice générale d'intérim du GIS, Madame Kisolo-Kele Mvete, de présenter les principales avancées réalisées par son établissement, tout en appelant pour un renforcement des capacités opérationnelles et une extension de la représentation du GIS dans plusieurs provinces. Je vous propose d'écouter le vice-premier ministre de l'économie nationale au micro de Richard Junior Kamunga.
L'économie congolaise, elle est largement informelle. Mais ce qui se passe dans l'informel ne devrait pas rester éternellement dans l'informel. Donc notre souci, c'est de rapprocher les activités informelles de l'administration. C'est un processus gagnant-gagnant. L'État y gagne en termes de recettes fiscales, mais les entrepreneurs également y gagnent et les travailleurs des entrepreneurs y gagnent. C'est un processus qui n'est pas facile parce que certainement qu'il y a des obstacles qui empêchent les petits entrepreneurs informels à se rapprocher de l'administration. Donc ce que nous faisons au ministère de l'économie, c'est de casser ces barrières et de faire en sorte que le GUS ne soit pas une barrière de plus dans le processus de formalisation, mais que le GUS soit plutôt une structure qui facilite la formalisation. Et je crois que nous y sommes arrivés. Nous allons organiser bientôt la publication des premiers résultats que nous avons obtenus, mais c'est un processus qui ne fait que commencer parce que l'acteur informel qui a été formalisé, il faut maintenir son appétit de rester dans le formel.
La directrice générale ad intérim du GIS a quant à elle salué le partenariat développé par le ministère de l'économie nationale qui a permis la mise en place d'une plateforme dédiée à l'accompagnement du processus de formalisation des activités économiques du secteur informel. À cet effet, une application mobile a été lancée permettant désormais aux entrepreneurs de se formaliser en moins de 48 heures. Et puis la coopération entre la RDC et les Royaumes de Belgique continue de se renforcer dans le domaine de la formation de l'élite administrative. À l'école nationale d'administration ENA, les élèves de la 10e promotion ont eu l'opportunité d'échanger avec Roxane de Biderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC. Les directeurs de l'ENA expliquent que cette activité s'inscrit dans le cadre des curriculums révisés qui instaurent désormais des séminaires et des conférences. Blaise Chindani Kambala pour le reportage.
Dans le cadre de la formation des futurs hauts fonctionnaires congolais, l'École nationale d'administration a accueilli une délégation de l'ambassade du Royaume de Belgique en RDC. Au centre de cette rencontre, un échange direct entre la diplomate belge et les élèves de la 10e promotion de l'ENA. Les apprenants ont saisi cette occasion pour poser des questions sur la coopération belgo-congolaise, les défis du développement et le rôle de la diplomatie dans le renforcement des institutions publiques. Au cours de ces échanges, l'ambassadrice a souligné l'importance du dialogue, de la formation et du partage d'expériences pour consolider les capacités des administrations publiques et d'accompagner les efforts de modernisation de l'État congolais.
Donc c'était vraiment pour moi, il était grand temps de venir aussi voir de moi-même comment ça se passait, de rencontrer les élèves et de pouvoir réaliser le travail qui est accompli ici, en partie avec la coopération belge, comme on l'a dit, à travers notre Institut Egmont, notre service public fédéral qui s'appelle BOSA, qui est donc l'équivalent de votre ministère de fonction publique.
Pour leur part, les élèves de la 10e promotion de l'ENA sont d'avis que cette initiative constitue une opportunité de découvrir d'autres modèles administratifs et de renforcer leur compréhension des mécanismes et des gestions publiques dans un contexte international. Le directeur de l'ENA, Tombola Moquet, a salué l'appui de la Belgique dans la rénovation des activités de son établissement qui a mis en place un programme du club d'anglais.
Actualité internationale.
L'armée américaine a annoncé avoir lancé des nouvelles frappes en Iran dans la nuit de mercredi à jeudi en réponse à l'attaque iranienne de mardi visant ses forces basées au Moyen-Orient. Ce sont les premières attaques sur le sol iranien depuis cela une semaine.
L'invité.
La Cour constitutionnelle vient de déclarer recevable et conforme à la Constitution la loi fixant les modalités d'organisation du référendum en RDC. C'était mardi le 28 juillet au cours d'une audience publique, une décision qui est consécutive à la requête introduite par le président de la République pour vérifier avant sa promulgation la conformité à la Constitution de ces textes adoptés par les deux chambres du Parlement. Cette décision a fait l'objet des échanges entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais. Je vous laisse suivre les invités. Au micro de Guy Maté.
Willy Wenga, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe. La Cour a émis certaines réserves en ce qui concerne les contenus des 13 dispositions contenues dans cette loi. Deux questions par rapport à cela, Maître Willy Wenga. Qu'est-ce que la Cour reproche à ces 13 articles? Serait-il en contradiction avec la Constitution? La deuxième question, est-ce que la Cour est habilitée à émettre des réserves pour une telle matière, Maître Willy Wenga?
Guy Maté et à tous les auditeurs, je tiens à préciser que la Cour elle-même, lorsqu'elle examine le contenu de la loi lui soumise, elle connaît elle-même à travers les lignes, les interlignes, les virgules et les prépositions à quel niveau une disposition légale pécherait si ça reste sous cette forme-là contre la Constitution parce que ça risque d'introduire une confusion. Donc, les réserves émises par la Cour, et qui sont aussi de sa compétence parce que la Cour n'a pas le pouvoir législatif, et voilà pourquoi d'ailleurs la Cour s'est référée à l'autorité de régulation. C'est-à-dire que les réserves de la Cour tiennent au fait que certaines dispositions, soit dans leur essence, soit dans leur formulation, soit dans leur philosophie, ont tenté à être en contradiction avec les uns contre les autres. Et il a considéré que dans la grande philosophie de la loi elle-même, la loi est conforme, sauf que certaines dispositions qui ont été mal formulées ou dont les contenus prêteraient à confusion mériteraient un peu un regard correctif lorsque on doit publier cette loi-là. Sinon, ça posera toujours un problème d'interprétation et partant un conflit dans la compréhension de la loi elle-même. Et lorsque la Cour elle-même émet des réserves sur les dispositions comme les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43, ça montre à suffisance que la Cour a lu la loi dans toute son intégralité. Donc, c'est de la compétence de la Cour de mettre des réserves, c'est une juridiction. Aussi, il ne lui revient pas à elle de modifier une disposition, mais d'aviser déjà les auteurs de la loi que quelque part ça cloche, sans que ça puisse remettre toute la loi en question, et cela, ça pourrait donner lieu, si le chef de l'État l'estime, au renvoi du texte devant le Parlement pour une seconde lecture afin de modifier les dispositions qui nécessitent quand même des corrections en tenant compte des réserves émises.
Merci Jeff Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi Inulu. Vous, en tant que politologue, quelle lecture vous faites de cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Il y a un problème qui concerne la légalité, la procédure légale. Est-ce qu'elle a été observée? Nous pouvons dire oui. Mais un autre problème qui se pose, c'est celui de l'opportunité de la loi. Est-ce que cette loi-là, elle est opportune? Est-ce que ce ne sont pas ces dispositions de la Constitution qui fâchent, sur lesquelles la Cour constitutionnelle a pu émettre un peu de réserve? Parce que nous savons déjà que si réellement la loi est déclarée favorable et que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, se décide de la promulguer telle qu'elle, donc nous espérons que c'est dans les 15 jours qui suivent, la loi sera promulguée. Nous n'allons pas oublier et perdre de vue que nous sommes pendant la période de l'état de siège sur une partie de la République.
Merci. Alidor Chibanda, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Vous pensez que cet arrêt de la Cour peut gêner le processus qui consiste à mettre en place les conditions capables d'organiser un dialogue national inclusif?
J'ai suivi la prise de position de l'opposition qui appelle la population à la marche populaire du 6 et 15. C'est que l'arrêt de la Cour a généré encore les tensions. Mais nous pensons qu'il est temps de voir plus l'avenir du pays et que nos égaux.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.